rencontre mondiale du logiciel libre. Beauvais 2015.
Je m'appelle Paul Koselkowski, je suis développeur du projet Replicant et aujourd'hui je vais vous parler des étapes accomplies par le projet Replicant pour la libération des appareils mobiles. Alors tout d'abord, je vais vous parler un petit peu des appareils mobiles. Alors ces appareils, ils sont partout, on les connaît, c'est nos téléphones, nos tablettes, ils sont présents dans la vie de tous les jours. Et ce sont en fait de vrais ordinateurs parce qu'ils ont un matériel très puissant, ils ont de vrais systèmes d'exploitation qu'ils exécutent et ils font tourner un certain nombre d'applications. Alors évidemment, à partir de là, on peut commencer à parler de logiciels libres et on peut en utiliser. Mais pourquoi parler de logiciel libre ? Alors tout d'abord, c'est une question éthique, hein, comme on le sait, c'est les quatre libertés fondamentales du logiciel libre. Donc c'est en fait l'histoire de contrôler son informatique plutôt que d'être contrôlé par son informatique. C'est aussi une question de communauté parce qu'on veut aider sa communauté, contribuer à créer un logiciel ensemble. C'est également particulièrement critique, comme on va le voir, du point de vue de la sécurité et de la vie privée, puisque quand on ne peut pas comprendre ce que fait le logiciel, quand on ne peut pas le modifier, eh ben on est sujet à tout un tas d'abus, d'être espionné au niveau de notre vie privée et tout ce genre de choses-là. Et en effet, le logiciel, quand il est propriétaire, peut également collecter des informations, tout un tas de choses indésirables. C'est aussi intéressant techniquement pour pouvoir adapter le logiciel, en particulier pour pouvoir suivre les changements de version. C'est particulièrement le cas sur Android où on a envie d'adapter les logiciels pour qu'ils puissent fonctionner avec les nouvelles versions d'Android où les interfaces, les API ont changé. Donc y a aussi des intérêts techniques. Alors les appareils mobiles, qu'est-ce que c'est exactement techniquement ? Alors pour comprendre un petit peu ce qui va suivre, je vais d'abord vous présenter ce schéma. Donc il y a une synthèse simplifiée du point de vue matériel de ce que c'est qu'un appareil mobile. Alors on a au début ce qu'on appelle un système sur une puce, donc system on a chip en anglais. C'est la puce qui va en fait contenir le processeur principal et un certain nombre de contrôleurs pour différents protocoles, différentes choses. Alors cette puce-là, on va la relier à de la mémoire, donc de la mémoire vive, de la RAM, mais également de la mémoire de stockage. Là où on va enregistrer le système d'exploitation, bon, tout ça c'est très classique. Et on va avoir tout un tas de circuits intégrés pour un certain nombre de choses, donc ça va être des périphériques, du Wi-Fi par exemple, toutes ces choses-là. On va aussi avoir un certain nombre de dispositifs d'entrée-sortie utilisateur, donc l'écran tactile, les boutons, toutes ces choses-là. Et on a aussi dans les appareils mobiles connectés au réseau téléphonique un composant qu'on appelle le modem. Donc le modem, c'est le composant matériel qui est chargé de communiquer avec le réseau de téléphonie mobile. Alors maintenant, du point de vue logiciel, pareil, si on veut comprendre un petit peu de quoi on parle, on a ce schéma-là qui résume un petit peu les choses. Alors, au tout début, à l'intérieur du système on-chip, donc c'est la puce qui contient le processeur principal, on a la boot ROM. Donc la boot ROM, c'est un petit bout de code qui n'est pas très très gros et qui est en fait inscrit dans le système on-chip de manière qui n'est pas réinscriptible. Donc c'est du code qui est préinstallé à la fabrication vraiment de la puce, qu'on ne peut pas changer. Et ce code-là va en fait être chargé de charger ce qu'on appelle un chargeur de démarrage. Donc c'est un autre logiciel plus complexe qui va faire un certain nombre d'initialisations du matériel et qui va charger en fait le noyau, donc le noyau Linux qu'on connaît. Et une fois que le noyau est chargé, il va pouvoir charger le reste du système d'exploitation, donc avec l'initialisation, le init qu'on connaît. Et en fait, pour communiquer avec le matériel, on va avoir un certain nombre de ce qu'on appelle des librairies d'abstraction matérielle. Donc c'est des choses en espace utilisateur, c'est-à-dire que c'est séparé du noyau. Et ça va en fait communiquer avec le matériel au travers du noyau, le noyau gérant les rapports avec le matériel. Et on va ensuite avoir ce qu'on appelle des frameworks. Donc c'est des couches d'abstraction qui sont communes à tous les appareils. Les API Java dans Android typiquement, des choses qu'on va pouvoir utiliser quand on écrit une application et qui vont nous permettre de ne pas nous soucier de savoir sur quel matériel on travaille précisément. Et enfin on a les applications qui vont utiliser les frameworks et qui font toutes les choses qu'on veut. Alors du côté du modem, en fait le modem il fait tourner un système d'exploitation à part entière. C'est quelque chose de très gros, hein. Le modem, c'est un processeur à part qui est très puissant et qui vraiment exécute un gros système d'exploitation avec son système de fichiers, des applications. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très très développé. Et sur les circuits intégrés, on a ce qu'on appelle des microcodes, où là, il s'agit de logiciels plus succincts, plus petits, qui réalisent une tâche particulière et qui vont être exécutés dans les périphériques. Donc on voit bien la distinction entre les puces. On a d'une part le système on-chip, d'autre part le modem et enfin les circuits intégrés. Donc trois blocs différents sur lesquels du logiciel s'exécute. Alors quand on parle de liberté dans les appareils mobiles, on a d'abord un scénario idéal qui serait en fait avoir du matériel libre. Donc on va voir un petit peu après qu'est-ce que ça veut dire exactement avoir du matériel libre. On voudrait avoir des microcodes libres, donc les microcodes qui s'exécutent sur les puces, les circuits intégrés. On voudrait que le système du modem soit libre également. Et puis, on voudrait évidemment que toutes les parties qui s'exécutent sur le système on-chip, donc sur le processeur principal, soient libres par ailleurs. Donc, c'est-à-dire la boot ROM, le chargeur de démarrage, mais également système et application. Et puis, puisqu'on parle d'appareils qui sont connectés au réseau téléphonique, on aimerait bien avoir un certain nombre de garanties quant au réseau téléphonique. Donc ça sera par exemple un accès neutre à Internet, pas d'interception des données et évidemment pas de collecte de la position des utilisateurs parce que le réseau téléphonique se prête bien à la triangulation par sa nature et c'est pas quelque chose qu'on peut changer. Donc on aimerait bien que cette information-là, même si elle est accessible, elle soit pas stockée ou enregistrée par les opérateurs de téléphonie mobile. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ça c'est bien beau, c'est un scénario idéal, mais la réalité aujourd'hui est un petit peu autre. Alors tout d'abord, les opérateurs de téléphonie mobile, on peut voir qu'ils appliquent souvent des filtres. Alors ça a été longtemps le cas sur par exemple du SIP qui va concurrencer le service que les opérateurs eux-mêmes mettent en place pour la téléphonie. Donc c'est des choses qui vont filtrer. Ils vont bien souvent garder trace des messages qui ont été envoyés et des appels. Alors ça, c'est pas très dur à démontrer, hein, quand vous recevez votre facture. Moi, je reçois, j'ai envoyé tant de SMS à telle personne, j'ai appelé telle personne pendant tant de temps. Donc, clairement, mon opérateur, il sait très bien ce que j'ai fait, qui j'ai appelé. Donc, c'est peut-être que des métadonnées, mais ça peut avoir un impact énorme pour, en particulier, reconstruire des liens entre les gens ou toutes ces choses-là, qui peuvent être particulièrement néfastes dans un régime qui respecte pas les libertés, par exemple, où on va pouvoir comme ça créer des liens entre les militants ou des choses comme ça, et en fait pouvoir leur nuire à ces militants plus facilement. Donc, c'est quelque chose que, évidemment, on ne veut pas. La collecte de la position en temps réel des utilisateurs, c'est quelque chose qui se fait aussi. Il y a eu pas mal d'exemples aux États-Unis, avec un certain nombre d'opérateurs qui mettent ces informations-là, même à disposition des politiques sans mandat particulier, ce qui est un petit peu problématique. Évidemment, ces données-là sont ouvertes aux agences de renseignement. Alors évidemment, c'est une situation qui varie selon l'opérateur, le pays, le gouvernement, mais globalement, on n'a pas vraiment de sécurité par rapport à ça. Alors, j'ai parlé un petit peu de matériel libre. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que du matériel libre? Alors, ça serait en fait un petit peu du matériel pour lequel on transposerait la définition du logiciel libre. Donc, on pourrait étudier, modifier, partager des versions modifiées. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Si on regarde un petit peu ces libertés, modifier du matériel, c'est très compliqué parce que c'est quelque chose de très pointu, de très précis. Il est particulièrement complexe de modifier un circuit imprimé. En fait, généralement, ce qu'on va faire, c'est modifier son design et en faire une nouvelle fournée, donc recréer le circuit imprimé de zéro à partir d'un design modifié. C'est en fait un petit peu ce qu'on fait avec du logiciel. On ne va pas modifier le binaire lui-même pour faire des changements, on va modifier son code source et on va faire un nouveau binaire. Avec le matériel, ce sera un peu la même chose. Et puis finalement, puisque pour le modifier, on a besoin du design du circuit, ben il faudrait que ces designs soient libres, ces designs de circuits imprimés. Alors c'est parfois le cas. Il y a un certain nombre d'exemples, hein. Si on prend l'Arduino, c'est un exemple assez célèbre de design de circuits imprimés libres. Par contre, il faut que ces designs-là soient dans des formats libres et documentés, c'est-à-dire qu'on puisse les modifier avec des logiciels libres, évidemment, parce qu'avoir un design de circuit imprimé qui n'est modifiable qu'avec le dernier logiciel Eagle qui coûte voilà, un prix astronomique, on ne peut pas vraiment dire que c'est quelque chose de libre. Alors, le design lui-même l'est, mais il est impossible de l'utiliser. Richard Stallman a d'ailleurs écrit une série d'articles là-dessus, qui est assez intéressante à lire, qui parle justement de qu'est-ce que ça veut dire pour du matériel d'avoir un design libre. Recréer donc ces circuits imprimés, c'est quelque chose qui coûte cher et qui n'est pas réalisable à l'échelle d'un individu. Ça va être des entreprises, hein, typiquement, qui font des circuits imprimés en grande quantité pour rentabiliser. Donc pour un individu, juste refaire une plaquette parce qu'il a voulu changer quelque chose, c'est quand même, ça coûte très cher et c'est pas courant. Voilà. Alors là, j'ai parlé de design de circuits imprimés, donc juste les cartes sur lesquelles on place les composants. Maintenant, il y a les composants eux-mêmes qui sont les puces en silicone et qui, eux, ne sont jamais du matériel libre ou très très rarement. Il existe aussi des designs de ces circuits-là. Donc ça va être quelque chose comme du VHDL, du Verilog. Donc c'est des langages qui sont adaptés à la description des circuits intégrés. Et ces choses-là sont très très rarement libres. Il y a très très peu d'exemples de circuits intégrés qui ont un design justement libre. Alors finalement, quand on parle de matériel libre, on se rend compte que c'est jamais aussi simple que juste de recompiler du code. Se recompiler du code, ça coûte rien, ça prend une demi-seconde et c'est très facile. Faire du matériel, c'est beaucoup plus compliqué. Alors maintenant, j'en viens au microcode, donc les petits logiciels qui s'exécutent dans les circuits intégrés. Alors la plupart du temps, ceux-ci sont propriétaires dans la plupart des circuits intégrés. C'est la norme, c'est comme ça qu'est la situation. À la base, ça sera propriétaire. Il sera d'ailleurs même pas toujours possible de les remplacer parce que certains ont ces microcodes qui sont dans une mémoire qui n'est pas réinscriptible. Pour certains autres circuits intégrés, ça va être très compliqué. Il va falloir dessouder des pins, des choses très précises qui ne seront pas forcément impossibles, mais en tout cas assez peu pratiques. D'ailleurs, même quand on arrive à les remplacer, il faut écrire un remplacement libre pour ces composants-là. Et c'est des choses très compliquées à écrire aussi techniquement, surtout si la puce elle-même n'est pas forcément bien documentée ou ces choses-là. Voilà, donc ça va être un travail assez monumental, assez gros. Mais pourtant, il existe des microcodes qui ont été écrits pour du matériel spécifique. Donc encore une fois, l'Arduino, c'est un microcode libre. Il y en a d'autres, Bus Pirate, Milky Mist One, c'est des exemples. Et rarement, il arrive aussi que les constructeurs de ces circuits intégrés décident de libérer ces microcodes. C'est ce qui est arrivé avec le ATH9K HTC. Donc c'est une entreprise qui s'appelle ThinkPenguin qui a fait pression sur le fabricant qui s'appelle Qualcomm Atheros, enfin Atheros qui avait été racheté par Qualcomm un petit peu avant, et qui leur a demandé vraiment, nous on veut un microcode libre, et après des discussions, le fabricant a décidé de libérer son microcode. Donc c'est très bien, mais c'est très très rare, c'est arrivé une fois et il n'y a pas beaucoup d'autres exemples. Alors enfin, j'en viens au système du modem. Alors, le système du modem, c'est systématiquement propriétaire. Encore une fois, sur tous les appareils qu'on utilise, ça sera quelque chose de propriétaire. Il y a un projet de pile GSM libre, donc un remplacement de ce système du modem pour quelques appareils qui s'appelle Osmocom BB. Alors, c'est pour de vieux téléphones, typiquement ce qu'on appelle les feature phones. Donc, c'est des choses avec un écran noir et blanc, avec juste les touches 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, et ces choses-là. Et en particulier, Osmocom BB, pour l'instant, ça a besoin d'un ordinateur hôte pour être exécuté, parce qu'il n'y a en fait qu'une seule partie du logiciel qui s'exécute sur l'appareil lui-même, et il y a une autre partie qui doit être exécutée sur un ordinateur. Donc ce n'est pas utilisable tout seul, ça a besoin d'un ordinateur hôte, et c'est assez peu pratique. Il y a aussi le problème de certification à partir du moment où on touche à des domaines de radiofréquence. Il faut que le logiciel soit certifié. C'est pas forcément un problème parce que ça se fait sur des cartes Wi-Fi. On peut avoir du logiciel libre dans des cartes Wi-Fi. Mais c'est quand même un obstacle et la certification n'est pas forcément un processus ouvert à tous et très simple. Alors pourtant, ce composant-là, il est vraiment crucial pour la sécurité et la vie privée. D'une part parce qu'il est quasiment toujours connecté au réseau GSM, donc on peut partir du principe qu'il peut être commandé à distance. Il peut avoir accès à un certain nombre de composants critiques, comme la mémoire de stockage ou la caméra. C'est pour ça qu'on va chercher une solution de contournement pour que ce modem qui exécute un système propriétaire ne puisse pas faire trop de mal pour notre vie privée, notre liberté. C'est ce qu'on appelle l'isolation du modem. Alors l'idée, ça va être de vérifier que matériellement, le modem ne peut pas accéder à tous les périphériques critiques, donc comme le GPS, le microphone, la caméra, toutes ces choses qui peuvent en fait collecter des informations sur l'individu. Et on va en particulier aussi chercher à ce qu'il ne puisse pas compromettre le système, donc en ayant accès à la mémoire de stockage, puisqu'il pourrait par exemple la modifier, introduire des portes dérobées, toutes ces choses-là. Alors c'est pour ça qu'on s'intéresse donc à l'isolation du modem. Alors si on revient un petit peu au schéma de global d'un appareil mobile, donc on retrouve système sur une puce, modem, entrée-sortie. J'ai détaillé un petit peu les différents périphériques, donc ils peuvent être GPS, codec, c'est ce qui gère l'audio, ce qui va être connecté au microphone, la caméra, et on voit que si tout ça est directement connecté au modem, on a ce qu'on appelle une mauvaise isolation du modem, et on sait que pour la vie privée et la sécurité, ça va être un vrai problème. D'autant que le modem peut être connecté aux opérateurs de téléphonie mobile dans lesquels on peut avoir une confiance, même si elle est relative. Mais on a également des antennes malveillantes qui peuvent être mises en place. Donc ça va être par exemple des camions avec de grosses antennes qui vont faire croire à votre téléphone qu'ils sont votre opérateur de téléphonie mobile. Mais en fait, tout ce qu'ils vont faire, c'est envoyer des commandes à votre modem pour lui dire de récupérer des informations sur vous. Alors c'est pas juste un délire de gens parano, c'est des choses qu'on trouve notamment pendant le printemps des révolutions arabes, c'est des choses qu'on a trouvées, ces gros camions qui en fait ont envoyé des ordres au modem des militants pour justement compromettre leur téléphone et en fait les transformer en dispositifs d'écoute. Donc c'est pour ça qu'on cherche à avoir une bonne isolation du modem, au contraire, avec laquelle le modem n'a pas accès à tous ses périphériques critiques et où en fait il est simplement relié au système sur une puce pour que le processeur principal puisse quand même lui dire d'appeler, d'envoyer un SMS. Voilà. Donc c'est le minimum et c'est ça qui va nous garantir un respect au moins relatif de la vie privée et de la sécurité. Alors tout ça c'est bien, mais ça ne résout pas les problèmes de liberté liés au modem, puisqu'il exécute toujours un logiciel propriétaire. On aimerait comprendre comment il fonctionne, on aimerait pouvoir le modifier. Et puis en fait, il existe aussi d'autres moyens d'espionner l'utilisateur, puisque je l'ai dit un petit peu avant, le réseau GSM se prête bien à la triangulation, et on va en fait de toute façon pouvoir déterminer la position de l'utilisateur au mètre près, même sans utiliser le GPS. Simplement en comparant les temps d'arrivée des signaux envoyés par le téléphone à différentes tours GSM. En fait, il en faut trois pour avoir une position de l'ordre du mètre, donc c'est quand même non négligeable. Et puis, on a parlé d'isolation du modem, mais comment on fait pour le vérifier exactement sur des appareils réels? Puisque c'est bien beau d'avoir une idée théorique de ce qu'on cherche à atteindre, mais il faut pouvoir le vérifier sur des appareils. Alors, ce qu'on va chercher, c'est des indices d'une mauvaise situation. Donc, la première chose, c'est les plateformes dans lesquelles le modem est intégré au système on-chip, donc intégré au même titre que le processeur principal à cette puce. Et quand c'est le cas, on peut avoir de très fortes suspicions quant au fait que le modem sera capable d'accéder à tous les périphériques auxquels le processeur est connecté. Et vu que le processeur doit être connecté à tous les périphériques, ou presque, on a vraiment un indice d'une très mauvaise situation. Donc c'est ce genre de situation, enfin ce genre de puce-là qu'il faut éviter. On peut aussi avoir de la documentation fuitée sur les appareils, donc typiquement des schémas électriques qui vont nous permettre de voir si le modem est connecté ou pas au GPS directement. On ne peut pas vraiment vérifier que ces schémas-là correspondent bien au matériel qu'on a acheté. Puisque, encore une fois, on n'a pas de matériel libre, donc on ne peut pas recréer une version à partir de ces schémas-là qu'on pourra vérifier être conforme au plan qu'on a. Donc finalement, on n'a pas vraiment d'assurance et c'est une question de bonne foi et de confiance. C'est-à-dire que si le fabricant a voulu enlever le fil qui va du modem au GPS sur la documentation qu'on a trouvée, ça va être très dur de le vérifier et on ne pourra rien y faire en fait. Voilà, je passe maintenant donc à la partie sur le processeur principal, donc bootrom, chargeur de démarrage. Donc ce que j'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, la bootrom c'est quelque chose qui n'est pas remplaçable, qui est inscrit dans la puce, le processeur principal, et donc en cela c'est pas quelque chose qui peut être libre puisqu'on peut de toute façon pas installer une nouvelle version. Dans tous les cas on n'a pas le code source non plus et donc c'est quelque chose de forcément propriétaire. Et le problème, c'est qu'en plus, dans beaucoup d'appareils, on va avoir une vérification de signature. Donc c'est une signature numérique type RSA, des choses très costauds, que la bootrom va en fait, comment dire, elle va vérifier la signature des chargeurs de démarrage, du premier qu'elle va exécuter. Et si la signature ne correspond pas à la clé publique qui est inscrite dans la mémoire de la puce, elle va refuser de démarrer ce truc-là. Et ces clés, en fait, cette clé publique, elle n'est pas remplaçable, elle est dans une mémoire qui est encore une fois non réinscriptible. Et ce qui fait que si on n'a pas la clé privée, on ne va pas pouvoir nous signer nos chargeurs de démarrage, et donc on ne va pas pouvoir exécuter de code libre dessus. Donc ça, c'est un vrai frein à la liberté parce que ça va nous empêcher complètement d'avoir des chargeurs de démarrage libres. Alors pourtant, il existe un certain nombre de plateformes sur lesquelles il n'y a pas de vérification de signature. Donc celles qui sont listées là, on a Freescale AMX, Allwinner, c'est des puces chinoises. Donc OMAP de Texas Instruments et Tegra de Nvidia, c'est des puces sur lesquelles en fait il existe deux versions. Quand on crée un appareil, on peut choisir de prendre la version qui vérifie les signatures ou la version qui ne vérifie pas les signatures. Et évidemment, une fois qu'on peut exécuter le code libre qu'on veut, donc quand il n'y a pas de vérification de signature, ben il faut un chargeur de démarrage libre, mais heureusement il y en a un certain nombre qui existent. Le plus connu c'est Uboot. C'est un gros projet. Il y a beaucoup de plateformes qui sont prises en charge et généralement c'est des bonnes plateformes qu'on connaît, donc ça va bien ensemble, donc c'est très bien. Et ça fonctionne bien, il y a toutes les fonctionnalités qui sont prises en charge. Donc c'est quelque chose d'assez positif. Donc j'en viens maintenant au système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, comme on le sait, c'est un des composants les plus importants, surtout au niveau de la liberté. Alors ça a en fait accès à chaque circuit intégré, évidemment, pour pouvoir les commander. Donc tout ce qui est les entrées-sorties, caméra, microphone. Ça a aussi accès à toutes les mémoires de stockage, donc évidemment toutes les données de l'utilisateur. Ça va être connecté à l'extérieur, soit au travers du modem avec les réseaux mobiles comme la 3G, la 4G, ce qu'on veut. Ça peut aussi être connecté par Wi-Fi, par Bluetooth, il y a des tas de choses. Donc c'est quelque chose qui est en permanence connecté et qui va aussi prendre en charge les communications de l'utilisateur. Donc typiquement, quand on fait un appel de voix ou quand on envoie un message, ben, tout ça, évidemment, ça passe par le système d'exploitation. Donc il en a conscience. Et donc, pour la vie privée, il y a un gros risque et un gros enjeu. Par exemple, il y a l'an dernier, j'ai découvert une porte dérobée dans les téléphones Samsung Galaxy qui permettait en fait au modem d'avoir accès à l'ensemble du système de fichiers et de pouvoir faire des opérations comme lecture-écriture. Donc potentiellement, le modem qui exécute un logiciel propriétaire et qui peut être commandé à distance pouvait accéder à toute la mémoire de stockage, y compris tous les messages, toutes ces choses-là, tous les messages envoyés. Et aussi pouvoir les modifier, donc compromettre le système d'exploitation en mettant d'autres portes dérobées, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est un vrai problème et c'est pour ça que le système d'exploitation, c'est particulièrement important pour la liberté et la vie privée. Et puisque en fait, c'est quelque chose qui est aussi en interaction directe avec l'utilisateur et que c'est ça en fait qu'on veut comprendre, qu'on veut pouvoir modifier, ben c'est aussi un gros enjeu rien que du point de vue de la liberté, sans parler de questions de vie privée. Alors, un système d'exploitation, comme je l'ai rappelé un petit peu avant, c'est l'ensemble composé du noyau, donc des librairies d'abstraction matérielle, d'un framework et des applications. Alors ça, c'est quelque chose qui se prête bien à la description des systèmes mobiles. Sur les systèmes GNU Linux plus traditionnels, c'est un peu moins vrai, mais on retrouve un petit peu ce schéma-là quand même. Alors, on a divers systèmes mobiles libres qui existent. Alors, on en connaît pas mal. Android, qui est très connu, Firefox OS, bon, qui aussi est bien connu dans les communautés du libre. Ubuntu Touch, qui est la version Ubuntu d'un système mobile. Tizen, aussi développé par Samsung, qui est l'héritier de Migo et ces systèmes qui ont été un peu éphémères. Enfin, OpenWebOS, c'est quand HP a racheté Palm. Palm développait un système qui s'appelait WebOS. Et en fait, quand HP a racheté donc Palm, ils ont décidé de libérer en partie ce système-là. Donc, ils n'ont pas libéré les parties les plus intéressantes, c'est juste essentiellement les couches d'interface et les choses comme ça. Mais ça a quand même motivé des gens et ils en ont fait une version communautaire qui s'appelle OpenWebOS. Donc, sur la plupart d'entre eux, c'est le noyau Linux qui est exécuté, évidemment. Par contre, les librairies d'abstraction matérielle, donc c'est des drivers, ce sont des choses qui vont être propriétaires. La plupart du temps, parce que c'est ça qui détient en fait la connaissance du fonctionnement du matériel et beaucoup de fabricants n'ont pas du tout envie que le fonctionnement de leur matériel soit mis à jour, donc ils font forcément des composants propriétaires pour ça et ils réfléchissent même pas à savoir s'ils pourraient le faire libre ou pas. Donc on a ce problème-là. Après, par contre, tout ce qui est les couches d'interface, de framework, tout ça va généralement être libre. Dans Android, c'est ce qui est écrit en Java, voilà, c'est des choses. C'est des choses, bon, de toute façon, qui n'ont pas beaucoup de savoir en elles-mêmes, hein. C'est juste des interfaces. Et puis, des applications, bon, il y en a plein qui existent. Sur tous ces systèmes, il y en a beaucoup, qui sont libres et c'est pas trop dur à trouver. Dans tous les cas, c'est pas très dur à écrire non plus. Alors, si on fait un petit résumé de la situation actuelle, où est-ce qu'on en est? Bon, matériel libre, c'est très compliqué, il n'y en a pas vraiment. On n'a pas les moyens pour ça. Dans les circuits intégrés, il y a des microcodes propriétaires. Et les systèmes qui s'exécutent dans les modems sont eux aussi propriétaires. Et enfin, les bootROM, donc le tout premier code exécuté par le processeur qui est dans la puce, c'est quelque chose qui est propriétaire aussi. Alors, on peut, pour améliorer la vie privée et la sécurité, s'intéresser à l'isolation du modem. Donc, c'est quelque chose qui est possible. On peut avoir une bonne isolation du modem, ce qui va apporter certaines garanties. On peut avoir des chargeurs de démarrage donc libres et non signés, puisque de toute façon, si la bootrom vérifie les signatures, ils ne peuvent pas être libres. Et on a des systèmes essentiellement libres qui existent et des applications libres. Donc tout ça c'est bien, mais si on regarde du point de vue de la vie privée et de la sécurité, ça offre vraiment pas des garanties suffisantes, puisque dans tous les cas, l'opérateur pourra quand même avoir accès aux communications, il pourra dans tous les cas trouver la position de l'utilisateur. Donc si vraiment il y a une activité sérieuse, si vous êtes journaliste ou quelque chose comme ça, le mieux c'est toujours de ne pas utiliser d'appareil mobile du tout. Et sinon, bah, il faut accepter des compromis et se dire que dans tous les cas, on pourra être espionné ou dans tous les cas, il y aura des composants propriétaires qui vont s'exécuter à un moment ou à un autre. Alors c'est là que vient le projet Replicant. Donc Replicant, c'est décrit sur notre site web en anglais comme ça. Donc c'est une distribution entièrement libre qui s'exécute sur plusieurs appareils. Donc c'est un système qui est libre et qui en fait met l'accent sur la liberté et la vie privée et la sécurité. Alors, c'est quelque chose qui a été démarré comme un moyen pragmatique d'obtenir un système libre. Donc, l'idée, c'était vraiment de ne pas tout développer depuis le début et en fait, d'utiliser la base d'Android. Donc, ça a été débuté en 2010, à l'époque où on avait essentiellement deux téléphones un petit peu libres qui venaient d'apparaître. Il y avait l'OpenMoco FreeRunner, donc c'est celui qui est à gauche. C'est un téléphone qui a été développé par des enthousiastes qui voulaient vraiment produire un téléphone libre. Et donc ça a donné un résultat d'un téléphone qui faisait tourner Debian et qui était fonctionnel. Il y a eu plusieurs problèmes d'utilisation, c'était un projet très nouveau, donc ça a mis du temps en fait à être stable et utilisable. Et puis en même temps, on a Android qui a commencé à faire Android, pardon, Google qui a commencé à développer Android. Qui a en fait racheté une start-up qui faisait ça. Et ils ont sorti le tout premier téléphone, donc Android, le HTC Dream, celui qu'on voit à droite. Et en fait, ça a inspiré beaucoup de développeurs qui ont souhaité faire des versions communautaires d'Android, puisqu'en fait, Google a décidé de distribuer le code source de la majeure partie du système à travers ce qu'on appelle AOSP, c'est l'Android Open Source Project. Et c'est ce qui a permis donc le développement de ces versions communautaires. Et donc l'idée de Replicant, c'était de faire une énième version communautaire, mais qui aurait la spécificité d'être entièrement libre, c'est-à-dire de ne pas utiliser précisément les couches d'abstraction matérielle propriétaire que j'ai mentionnées un petit peu plus tôt. Donc l'idée vraiment, c'est de respecter l'utilisateur, donc de ne pas fournir de logiciels propriétaires, de ne pas recommander l'utilisation de logiciels propriétaires, puisque ce n'est pas les valeurs qu'on défend, et on estime que c'est ne pas respecter l'utilisateur que de distribuer du logiciel propriétaire, du logiciel qui est mauvais pour sa liberté. L'idée aussi, c'est d'avoir un système fonctionnel et utilisable, donc qui serve à quelque chose, que ce ne soit pas juste une idée théorique en se disant on va pouvoir faire ça, mais en fait, quand on essaie de l'installer, il n'y a rien qui marche parce qu'il manque des pilotes ou des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'utilisable. Donc, c'est un début du projet. Et on souhaite également avoir des améliorations pour la vie privée et la sécurité parce que ça va bien avec un système libre, puisque de toute façon, si on a des composants propriétaires, c'est mauvais pour la vie privée et la sécurité. Donc tant qu'à faire que de faire un système libre, autant essayer en même temps d'améliorer la situation du côté de la vie privée. Donc techniquement, c'est quelque chose qui a été basé sur AOSP, donc le code diffusé par Google. Puis en fait, à partir de la version 2.2, on a utilisé une autre version communautaire comme base qui s'appelle CyanogenMod et qui prend en fait en charge beaucoup plus d'appareils que AOSP, ce qui nous a permis à nous d'étendre en fait l'éventail des appareils pris en charge par Replicant. Donc le fait que c'est entièrement libre, ça implique un certain nombre de choses, notamment le fait que toutes les parties propriétaires doivent être supprimées, mais en fait si on les supprime tous, il n'y a plus grand chose qui marche. Si on essaie de démarrer le système sans aucun composant propriétaire et sans en fait avoir fait quoi que ce soit pour les remplacer, le système va vraiment même pas démarrer, il va juste rien faire, quoi. Il va être complètement inutilisable. Donc c'est pour ça qu'une grosse partie du travail sur Replicant consiste à remplacer ces composants propriétaires par des équivalents libres qu'on écrit. Donc ça implique de faire de l'ingénierie inverse, de comprendre comment les composants propriétaires fonctionnent et de reproduire le même fonctionnement dans un programme libre. Et enfin, on va souhaiter supprimer les fonctions malveillantes qui sont présentes soit dans CyanogenMod, soit qui sont héritées de AOSP. Donc typiquement, dans CyanogenMod, il y a un certain nombre de dépillages de l'utilisateur qui est fait. Ça peut être simplement pour collecter des statistiques ou des choses comme ça, mais c'est des choses que nos utilisateurs trouveront trop intrusives et donc qu'on décide d'enlever par défaut. Puis de toute façon, ça coûte pas bien cher et c'est pas très compliqué, donc pourquoi s'en priver? Finalement, il y a aussi une partie du travail qui consiste à simplement adapter le système. Alors d'une part, juste pour l'image, remplacer les logos de CyanogenMod par ceux de Replicant, donc c'est assez trivial. Il y a aussi l'aspect adapter le reste du système au manque de composants propriétaires. Parce que Android, par exemple, va s'attendre à ce qu'il y ait une prise en charge de la 3D. Maintenant, sur Replicant, aucun appareil ne prend en charge la 3D parce que tous les drivers pour le GPU, donc le composant qui fait la 3D, sont propriétaires et c'est un travail énorme de les remplacer. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de prise en charge de 3D dans Replicant et tous les autres composants du système qui s'attendent à ce que cette fonctionnalité-là soit disponible, on va aussi devoir les adapter pour pas, justement qu'ils puissent faire sans. Donc c'est aussi une grosse partie du travail. Ça va être le cas avec les microcodes, typiquement pour le Wi-Fi, le Bluetooth, ces choses-là. On a donc le microcode à envoyer dans la puce. Maintenant, s'il n'est pas présent dans Replicant parce qu'il est propriétaire, le système va quand même s'attendre à ce qu'il soit installé et va par exemple, ce qu'on trouve des fois, c'est que le système va essayer de charger le microcode, il se rend compte qu'il n'est pas présent, il va recommencer, recommencer, et en fait, il va faire ça en boucle en permanence. Et donc, on va avoir le processeur utilisé à 100% en permanence parce que le truc ne trouve pas le fichier, mais il continue à essayer de le charger. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faut corriger. Donc c'est essentiellement donc cette partie-là du travail. Maintenant, il y a aussi des aspects de maintenance et de mise à jour de sécurité qu'il faut faire dans tous les cas, comme tout système d'exploitation qui se respecte. Et si on regarde un petit peu l'avancement du projet, alors ça couvre du début du projet, donc décembre 2010 jusqu'à l'été dernier. Et ben en fait, on voit qu'au tout début, il y avait simplement le HTC Dream qui était pris en charge, décembre 2010, et puis rapidement, il y a de nouveaux appareils qui ont été pris en charge. Donc c'était en version 2.2 d'Android, donc c'est quelque chose qui maintenant est assez vieux. Et puis petit à petit, on a écrit des composants que je détaillerai un petit peu après, et on a ajouté de la prise en charge pour plus de téléphones. Donc à la fin, on voit qu'on a une douzaine d'appareils pris en charge, et c'est quand même beaucoup de travail qui a été donc réparti sur le temps. Et on voit à chaque fois que les versions de Replicant ont été mises à jour de temps à autre. On ne suit pas toutes les versions non plus. Alors, je vais parler un petit peu de certains challenges qui ont été intéressants pour nous. Alors d'abord, au niveau des appareils Samsung, on a donc le modem, ce composant qui exécute un système propriétaire, mais avec lequel on a quand même besoin de dialoguer pour lui dire bah, il faut appeler voilà Tata, il faut appeler Tata, voilà, il faut envoyer un message, il faut activer les données mobiles. Donc tout ça utilise un protocole numérique. Dans les modems, historiquement, on avait un protocole qui s'appelait ACE ou AT. C'est un protocole basé sur de l'ASCII, donc c'est quelque chose de très simple. C'est très documenté, tout le monde connaît. Donc quand on veut appeler un numéro, bah, en fait on entre une commande AT plus call, deux points le numéro. On envoie ça sur un port série et le modem sait qu'il doit appeler le numéro en question. Maintenant, dans ces modems-là, ceux qui sont utilisés dans les appareils Samsung, ce n'est pas du tout le même protocole. On a été confronté à quelque chose de complètement nouveau qui est documenté nulle part et qui utilisait un protocole binaire. Donc, pas de texte qui nous indique explicitement de quoi il s'agit. On a juste des octets qui passent et qui n'ont aucune signification a priori. Et donc, tout le challenge, ça a été de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le travail qui a été fait, qui a été commencé à l'été 2011. Donc libSamsung IPC, c'est la librairie qui implémente justement ce protocole-là. En fait, on a eu de la chance parce qu'un développeur russe, je crois, avait s'était intéressé à ce protocole-là sur des générations de téléphones Samsung antérieurs. Et il avait réussi à comprendre un certain nombre de choses, justement en faisant de l'ingénierie inverse. Et en fait, on a eu du bol de rencontrer cette personne-là un petit peu par hasard. Et il nous a dit, ah mais oui, j'en ai fait un petit peu il y a un an ou deux, je me souviens, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et en fait, on a pu travailler ensemble parce que forcément, lui, voyant que d'autres personnes s'y intéressaient, il s'est replongé un peu dedans. Et on a pu comme ça bah, comprendre le protocole. On a eu de la chance aussi parce que les binaires fournis par le fabricant, enfin sur les téléphones Samsung, on pouvait avoir des logs assez verbeux, donc on pouvait assez facilement voir comment les données étaient interprétées. Donc ça nous a permis de réécrire complètement cette couche qui gère la téléphonie et aussi les données mobiles. Donc de zéro, de complètement la réécrire en libre. Et c'est un truc donc qui avait été commencé ouais, à peu près en 2011 et que j'ai réécrit l'été dernier parce que c'est du code qui avait mal vieilli et qui n'était pas très bien. Donc j'ai tout réécrit depuis le début et maintenant ça marche super bien. On peut envoyer des milliers de SMS sans que ça plante. Donc c'est assez sympa. Maintenant sur les d'autres appareils, donc Nexus 16, Galaxy S, il y a un certain nombre de choses qui ont dû être faites pour la caméra, l'aperçu, parce qu'encore une fois ça dépendait de composants propriétaires. Donc il a fallu faire marcher ça sans. Les capteurs aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant, notamment accéléromètre, champ magnétique, c'est des choses sur lesquelles j'ai pas mal travaillé. Et en fait, encore une fois, on a des données qui arrivent de la puce, qu'on peut voir parce que le noyau est libre et que le driver qui gère ça est libre. Mais en fait, l'interprétation de ces données pour leur donner une signification physique, c'est un truc qui est fait donc par une librairie d'abstraction matérielle propriétaire, qu'on a dû comprendre et remplacer. Et donc là, c'est du travail assez intéressant parce que c'est de la modélisation mathématique. Simplement, on a des données qui arrivent en entrée, des données qui arrivent en sortie, on a de paramètres qu'on peut faire varier, il faut essayer de comprendre le lien entre tout ça, et donc c'est assez intéressant d'essayer de trouver un modèle. Alors, des fois, ça fait des équations assez barbares hein, où il y a cinq paramètres différents, des fois des choses, on comprend pas trop pourquoi ils font ça, mais bon, et à la fin, ça sort une donnée qui a un sens physique et qu'on peut exploiter. C'est assez intéressant. J'ai pas mal travaillé aussi sur l'audio, donc pareil, une librairie d'abstraction matérielle pour l'audio qui était propriétaire, donc comprendre ce qu'elles font, comment elles communiquent. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. La caméra, c'est autrement plus compliqué. Alors pour le Galaxy S2, j'avais fait un premier jet d'implémentation qui fonctionnait. C'était des formats d'images assez standards. Et en fait, pour la nouvelle génération, les Galaxy S3, Galaxy Note 2, on a eu un format complètement nouveau. Donc le format du S5C73M3, qui en fait était un format ce qu'on appelle interleaved, où on avait en fait deux images à la fois qui sont dans le même binaire. Il a fallu en fait dépaquer chaque image. Donc c'était quelque chose qui a été assez compliqué. En fait c'est assez marrant, quand j'ai travaillé sur ça, il y avait un truc qui me bloquait vraiment sur l'interprétation des données. Et je me suis dit, bon, coûte que coûte, je vais envoyer un mail à un développeur de Samsung, parce qu'on a leur nom en fait dans le noyau Linux, ils mettent leur nom sur les entêtes. Et donc j'ai pu contacter cette personne-là. Et il se trouve qu'il m'a répondu avec toutes les informations dont j'avais besoin, un jour après que j'ai moi-même découvert comment ça marchait. Donc bon, voilà, il se trouve bon, il a été sympa, il a quand même répondu. Et ce qui fait qu'en fait, à la fin, on en arrive à avoir tous ces appareils-là pris en charge, donc il y en a 11 ou 12. Et si on regarde dans tout cela, il y en a ces quatre-là qui ont une mauvaise isolation du modem, ce qui n'est pas terrible pour la vie privée, la liberté. Et en tout cas, ils ont tous un chargeur de démarrage propriétaire et signé. Donc c'est vraiment pas terrible pour la liberté. Et je commenterai un peu plus cet aspect-là et précisément ce qu'on a décidé de faire pour changer cette situation demain dans une conférence que je présente dans cette salle, je crois aussi. Faut regarder sur le programme, je sais plus, je crois que c'est peut-être dans la matinée, honnêtement je sais plus très bien. Donc pour continuer rapidement, l'état actuel du projet c'est mené par un seul développeur, donc moi-même, sur mon temps libre. Ça n'a pas beaucoup avancé récemment parce que bon, j'ai fait une prépa et ça a pris du temps aussi. Ça reçoit peu de contributions externes. En fait, il y a une personne qui se charge maintenant des mises à jour de sécurité, donc c'est déjà ça de plus. Ça prend donc en charge 12 appareils, essentiellement des Samsung Galaxy, des Nexus. C'est basé sur la version 10.1 de CyanogenMod, donc 4.2 d'Android. C'est un peu vieux, mais encore une fois, c'est beaucoup de travail de passer sur une nouvelle version et pour la liberté, ça apporte pas forcément grand-chose. Et les seuls soutiens financiers sont par des dons qui sont gérés par la Fondation pour le logiciel libre, la FSF. Donc c'est un bon moyen de soutenir le projet. Donc récemment, j'ai travaillé sur des appareils plus respectueux de la liberté, ce dont je parlerai demain. On a aussi eu un problème avec notre code source qui était hébergé par Gitorius qui a fermé. Depuis la semaine dernière, on est maintenant hébergé par la FSF. Donc c'est vachement bien. On a maintenant notre code source qui est à nouveau disponible. Et il y a des mises à jour de sécurité qui restent à faire. Donc c'est des choses à faire. Voilà. Pour le futur, donc on se pose des questions quant à la confiance qu'on peut avoir en CyanogenMod, d'autant que bon maintenant CyanogenMod est devenu une entreprise qui est financée par Microsoft en partie et ils font des choses un petit peu louches. Donc on commence à se demander bon est-ce qu'on a vraiment envie de toujours rester basé sur ça ou est-ce qu'on n'utiliserait pas plutôt une autre version communautaire comme OmniROM? Qui est un petit peu plus dans l'esprit du libre. On se demande aussi est-ce qu'on devrait passer à une nouvelle version d'Android Android, parce que maintenant on est en 5.0, nous on est toujours en 4.2, ça commence à faire un gros écart. Sachant que ça pose toujours des problèmes pour la prise en charge des appareils, où en fait CyanogenMod par exemple ne décide pas forcément de toujours prendre en charge les vieux appareils que nous on prend en charge, et ça serait dommage pour nous de les laisser tomber vu tout le travail qu'on a fait pour les libérer. Donc il y a un petit peu ces choses-là à peser. Notamment aussi le fait que dans AOSP, donc la version libre mise à disposition par Google du code d'Android, il y a de moins en moins d'applications de base qui sont maintenues parce que Google les remplace par ses versions propriétaires. Et ça fait que dans Replicant, par exemple, on n'aura pas de gestionnaire de fichiers, pas de galerie, une application caméra qui utilise des API d'il y a longtemps et qui n'est pas belle ou des choses comme ça. Et ça, c'est embêtant, c'est pas très dur à corriger, mais ça prend du temps et on aimerait bien travailler sur autre chose. Voilà. Donc c'est une direction qui est un peu dommage. Pour nous, on va peut-être passer donc en nouvelle, dans une version plus récente, récemment, et donc prendre en charge encore une fois des appareils plus respectueux de la liberté. Ce que j'aimerais faire aussi récemment, c'est dans le futur proche, c'est mettre à jour notre wiki, essentiellement pour qu'il y ait des informations concernant les chargeurs de démarrage, savoir lesquels sont propriétaires, lesquels sont signés, des informations quant à la vie privée, la sécurité, notamment l'isolation du modem, comment est-ce que sur les plateformes on a pu évaluer si l'isolation est mauvaise ou pas. Aussi mettre à disposition des informations à propos d'autres appareils qui ne sont pas pris en charge mais qu'on a regardé pour savoir s'ils étaient intéressants ou pas, mettre ces informations-là disponibles. Également documenter les projets qu'on a commencé et qui n'ont pas été aboutis comme sur les GPS, c'est assez compliqué les GPS. Et pourquoi pas aussi faire une version de Replicant plus dirigée sur la vie privée et la sécurité. Peut-être au détriment de certaines fonctionnalités, mais donc l'idée serait d'avoir une version à part qui serait pas la version principale de Replicant, et donc on aurait deux choix pour ça. Également prendre en charge des appareils sans modem, parce que ça pose beaucoup moins de soucis pour la liberté et la vie privée. Et peut-être d'autres formats comme des single board computers ou des home theater PC, donc des ordinateurs qui sont de l'embarqué, qui ont le même type de puce que les téléphones, mais qui n'ont pas le même format physique en fait. Donc ça peut être intéressant d'exécuter Replicant là-dessus. Donc finalement, si ça vous intéresse, que vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le projet, on a un site web, un blog, un wiki. On a aussi pour communiquer des forums, une liste de discussion et un canal IRC, donc Replicant chez Freenode. Et évidemment, le projet a besoin de vous parce que Replicant mérite plus qu'un seul développeur et que les dons sont toujours bienvenus aussi parce que les appareils coûtent cher et qu'avec mon budget d'étudiant, j'ai un peu du mal à acheter 12 téléphones. Voilà. C'est tout pour cette présentation, je vous remercie. Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. J'ai un petit peu dépassé l'horaire, mais bon, s'il y a des questions. Oui. Ah, c'est chouette, on a un deuxième micro.
Bonjour. Ma question concerne notamment tout le code que tu produis pour faire fonctionner les appareils. Ce code-là, est-ce qu'il est reversé alors dans le cas de la distribution Android sur laquelle t'es basé, Cyanogen, est-ce que tu redistribues à Cyanogen, voire même directement à OSP?
Alors, en fait, ça dépend si les développeurs sont intéressés. Sur CyanogenMod, il y a certains aspects sur lesquels ils sont vraiment intéressés, notamment ce que j'ai fait sur l'audio du Galaxy S2. En fait, ils étaient vraiment super, super contents que j'ai fait ce travail-là, parce que pour eux, les binaires propriétaires étaient très durs à gérer, et c'était des interfaces pas standards, et du coup, ils étaient très contents qu'il y ait un truc libre qui apparaisse pour ça. Donc ça, forcément, ils l'ont pris, ils ont contribué, donc j'ai même pu réintégrer leurs modifications à eux dans Replicant, donc ça a été un échange comme ça, c'est assez intéressant. Sur certains autres composants, ils sont moins intéressés pour ce qui est par exemple le modem, le protocole justement Samsung. Eux, ils préfèrent toujours utiliser les composants propriétaires parce que Replicant prend en charge 80% des fonctionnalités et eux, ils veulent du 100%, donc ils prennent le composant propriétaire. Après, oui, globalement, ils ont un intérêt pour ça. Ça dépend des développeurs aussi. Ceux qui travaillent sur Samsung étaient quand même assez proches de la philosophie du logiciel libre et donc ça les intéressait. Je sais que sur d'autres plateformes, c'est pas du tout leur objectif et eux, ils veulent juste que ça marche et donc que ce soit propriétaire ou pas, c'est pas leur problème en fait. Et donc il y a un peu de tout, ça dépend, mais globalement, il y a des choses intéressantes qui se font quand même.
Directly, the biggest obstacles we realize with Android are
Donc la question c'est les obstacles les plus gros de la, enfin pour libérer les appareils avec Replicant, c'est les microcodes et les drivers. So maybe I'm going to answer in English for you and then I'm going to say it in French. Just for... Ah ok. D'accord. Donc c'est vrai, les plus gros problèmes pour la liberté, c'est les drivers, donc les choses qu'on a besoin de remplacer pour vraiment que le matériel marche. Donc c'est le plus gros obstacle, clairement. Il y en a qui sont très compliqués, par exemple pour les GPU, sur lesquels on ne travaille même pas parce que c'est une tâche à part entière et que c'est très compliqué. Maintenant, les microcodes, c'est aussi quelque chose sur lequel on ne travaille pas particulièrement parce que c'est très spécifique à chaque matériel et c'est pareil, beaucoup de travail pour les remplacer. Donc généralement, les microcodes, on ne va pas les distribuer, ce qui fait que les fonctionnalités ne vont pas être prises en charge par Replicant, ce qui est dommage. Donc c'est vrai que c'est un obstacle, un très gros obstacle. Ouais. Sorry, go again.
Is it possible to insert another layer of virtualization
well, I'm not sure how that's going to help.
Alors, on
Ah.
peut utiliser
Ouais, d'accord. Je vais peut-être répondre en français. Ouais. En fait, dans Android, il y a déjà une séparation de chaque processus qui est assez bien faite. Ce qui fait que normalement, même si un composant propriétaire est exécuté, il ne doit pas avoir accès à toute la mémoire de stockage, il ne peut pas avoir accès au contenu des autres applications. Maintenant, dans le cas de certains composants, notamment ceux qui gèrent le modem, ils ont besoin de beaucoup d'accès au système et ils vont parfois être exécutés en tant que root. C'est aussi le cas pour les drivers d'accélération graphique. Et donc c'est des composants propriétaires qui vont eux être exécutés en root et qui vont en fait avoir pouvoir accéder à la mémoire, à tout. Et techniquement c'est assez dur de faire sans parce que c'est très bas niveau et ils ont besoin d'accéder à beaucoup de ressources. Donc justement il n'y a pas vraiment de séparation pour ces composants-là. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de vraiment les restreindre à simplement accéder le matériel auquel ils ont vraiment besoin. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. Maintenant, l'approche qu'on en a dans Replicant, c'est simplement de les enlever et d'essayer de les remplacer. Donc forcément, quand ils sont libres, même s'ils ont beaucoup plus de droits, s'ils s'exécutent en tant que root, c'est moins grave parce qu'on sait ce que fait le logiciel. Donc même si d'un point de vue de la sécurité en général, ce n'est pas une bonne approche, c'est quand même moins grave que dans le cas où ils sont propriétaires. Bah, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie et bonne journée.